Mesdames, Messieurs, bonjour à tous.
Voilà, je vous propose alors de démarrer un nouveau chapitre qui est relativement court, qui ne compte que deux séances, deux temps, le temps des apothèques et le temps des mixtèques, et on va découvrir une vallée qui est très très riche sur le plan artistique, c'est la vallée d'Oaxaca, où deux grandes cultures se sont développées, les apothèques d'abord à Monte Alban, et les Mixtecs que l'on verra la semaine prochaine, qui ont fait de Mitla, qui est à peu près à 40 km au sud-est d'Oaxaca, donc de Monte Alban, les Mixtecs qui ont fait de Mitla leur capitale. Mais ça, nous le verrons la semaine prochaine. Les Mixtecs et Mitla, la semaine prochaine, aujourd'hui, Monte Alban, capitale des apothèques. On va présenter, bien sûr, l'art des apothèques. Bon. Alors, on a de la chance avec Monte Alban. On a affaire à une ville qui est relativement bien conservée, donc bien sûr ce sont des ruines archéologiques, mais la ville, a priori, dans son histoire, n'a pas connu de destruction aussi majeure, aussi radicale qu'à Teotihuacan, par exemple, ou Mexico-Tenochtitlan, si bien que les archéologues ont pu déterminer cinq phases archéologiques qui déterminent à leur tour cinq périodes. Donc quand on parle de la vallée d'Oaxaca, et en particulier de ces deux cultures apothèques et mixtèques, on se fonde toujours sur la chronologie des phases archéologiques de Monte Alban. On va les découvrir, donc elles s'affichent sur la projection. Cinq phases archéologiques. Monte Alban 1 est la plus ancienne qui démarre dès 500 avant notre ère et se développe jusqu'en 200 avant notre ère. Monte Alban 2, c'est 200 avant notre ère, 200 de notre ère. Pendant la période de Monte Alban 3 qui court de 200 à 700 de notre ère, la sculpture d'urne funéraire connaît un très grand développement. Et on va découvrir ces urnes funéraires qui donnent un aspect tout à fait remarquable à l'art zapothèque. Et c'est une période de relation, par ailleurs, avec les grandes villes du moment. Vous savez que les grandes villes du moment, entre 200 et 700 de notre ère, c'est par exemple Teotihuacan, qu'on a déjà présenté, bien sûr, mais c'est encore Xochicalco, qu'on avait vu à la fin de Teotihuacan, quand on avait conclu sur Teotihuacan, on avait montré les villes rivales qui avaient pris le relais tel Xochicalco, ou même Tzacol, qui est dans l'ère maya. On sait que la ville entretenait des relations avec donc Tzacol dans l'ère maya. Donc, et la période est donc très très riche, et c'est à ce moment, au cours de Monte Alban III, que la vie sacrée des apothèques, donc Monte Alban, avec son centre cérémoniel que je vais présenter dans un instant, est à son apogée. Donc l'apogée des apothèques, l'apogée de Monte Alban, c'est ça, ça nous situe au 6e, 7e siècle de notre ère, à un moment d'ailleurs où décline et disparaît Teotihuacan. À ce moment précis, Monte Alban, la Monte Alban des apothèques, est à son apogée. Monte Alban 4 est une période qui court de 700 à 1200, et là on va rappeler certaines choses. La période est troublée, la période est difficile. On sait, parce qu'on l'avait déjà dit, que des sécheresses répétées ou peut-être même des inondations catastrophiques poussent les barbares du Nord, qui sans doute ont été les premières victimes de ces sécheresses et de ces inondations. Donc ça les pousse en tout cas à prendre pied dans la zone fertile, c'est-à-dire la vallée de Mexico. Et ça va occasionner de profonds troubles dans l'organisation du monde précolombien. Et on sait que c'est à cette occasion que Teotihuacan, la ville de Teotihuacan, s'effondre. Mais s'effondrant, cette ville qui était une mégapole de 250, peut-être 300 000 habitants, avec elle disparaît ce qu'on a appelé la Pax Teotihuacana, c'est-à-dire la paix qui avait été engendrée par cette ville qui était aussi une ville commerciale, et ça entraîne un désordre qui va se répercuter partout, notamment vers le sud-est, jusqu'en plein pays maya, c'est-à-dire à 1200 km plus loin que Teotihuacan, on ressent les répercussions donc de la ruine de Teotihuacan. Et d'ailleurs, on retrouvera des gens de Teotihuacan à Calinacjuyu. Calinacjuyu, j'en ai pas parlé, c'est une ville qui se trouve au Guatemala, qui est une ville maya, mais on sait que les gens de Teotihuacan y introduisaient des coutumes, des traditions qui provenaient des hauts plateaux. Enfin, tout ça pour dire que cette période est troublée et qu'elle correspond à la ruine de Teotihuacan, et avec cette ruine, engendre par un jeu de dominos, si vous voulez, la fin de beaucoup d'autres cultures et civilisations. Et en cette fin du premier millénaire de notre ère, alors que effectivement le désordre est complet total en Mésoamérique, Monte Alban va subir, mais modérément, le déclin général, ce déclin qui affecte les villes du plateau central et du sud avec Teotihuacan et sa ruine complète. Monte Alban, elle, arrive quand même à tirer son épingle du jeu. En tout cas, donc, elle n'est pas ruinée, totalement ruinée, comme le sera justement, comme le sera Teotihuacan. Et puis après Teotihuacan, on pense aussi à des villes comme Tula, la capitale des Toltecs, détruite en 1167, ou Chichen Itza, la Chichen Itza des Mayas Toltecs, qui est détruite, elle, en 1221. Tout cela, nous l'avions vu dans des cours précédents. Bon, donc ce qui fait qu'on arrive à Monte Alban V, la ville à cette époque, je le redis, n'a pas été détruite, à la différence d'autres villes qui ont été détruites. Monte Alban V nous situe entre 1200 et 1519, mais comme le montre la projection, donc c'est à ce moment un autre peuple qui domine la vallée d'Oaxaca qui s'est implantée à Monte Alban. Monte Alban est une ville qui n'est pas détruite, donc on peut effectivement s'y installer. C'est ce que fait ce peuple montagnard des Mixtecs que je présenterai la semaine prochaine. Mais on peut en dire deux mots. C'est un peuple belliqueux, c'est un peuple qui est surtout très doué dans le domaine des arts somptuaires, mais ça vous le savez déjà, puisque pas plus tard que la semaine dernière, on a présenté des objets aztèques mixtèques, de toute beauté, hein, vraiment, qui rappelaient que ces mixtèques étaient des maîtres artisans. Bon. Et les mixtèques en question vont occuper à Monte Alban les mêmes tombes que les apothèques, y laisser des trésors d'orfèvrerie, que je vous présenterai la semaine prochaine, ce qui permettra de rebondir sur le cours qu'on a eu la semaine dernière. Quoi qu'il en soit, au XVe siècle, ce sont évidemment les Aztèques qui vont annexer cette région, la vallée d'Oaxaca, à leur empire. Cependant, ils ne s'implantent pas à Monte Alban. Les Aztèques ne se sont pas implantés à Monte Alban, si bien que jusqu'au bout, jusqu'à l'arrivée des Espagnols, Monte Alban a été occupé par des peuples de la vallée d'Oaxaca. Et en 1521, elle était encore occupée par des Mixtecs, mais c'est vrai qu'à cette époque, elle n'était plus qu'une vaste nécropole, parce que, je le redis, les Mixtecs n'avaient pas fait de Monte Alban leur capitale comme les Apothèques. La capitale des Mixtecs, c'était Mitla. Je la présenterai la semaine prochaine. Mitla et les Mixtecs. Mais on aura recours, bien sûr, aux tombes de Monte Alban, puisqu'on y trouve des objets Mixtecs de toute beauté. Donc, pour résumer les choses, le site de Monte Alban a été occupé près de 2500 ans. C'est remarquable. Donc, des origines à peu près 500 avant notre ère, jusqu'à, même peut-être avant 500 avant notre ère, jusqu'à l'arrivée des conquistadors et la prise, bien sûr, de la ville de Monte Alban. Monte Alban a été occupé à peu près, un peu moins de 2500 ans, ce qui est remarquable, et c'est ce qui fait de cette ville un site archéologique aujourd'hui qui est incontournable au Mexique. Alors, découvrons cette ville. Voici l'esplanade sacrée de Monte Alban. Vous avez déjà quelques mesures, quelques dimensions, 750 mètres sur 250, à 400 mètres au-dessus de la vallée, mais la vallée, elle, est située à 1500 mètres d'altitude, ce qui permet peut-être de faire déjà donc une présentation géographique. Hein. Nous sommes dans une vallée qui est sensiblement différente de la vallée de Mexico. Hein. C'est même très très différent. Le contexte à la fois climatique, géographique est très très différent. Alors nous sommes précisément à 2 km au sud-est de la ville actuelle d'Oaxaca. Oaxaca, c'est une vallée. Oaxaca, c'est un état du Mexique. Oaxaca, c'est une ville. Et une ville qui garde aujourd'hui un musée archéologique est tout à fait passionnant parce que on y trouve justement les objets qui ont été mis au jour dans les tombes de Monte Alban notamment. Et si vous situez Oaxaca, la ville d'Oaxaca, vous situez Monte Alban, c'est à 2 kilomètres d'Oaxaca. La ville se trouve dans un cadre de montagne qui culmine à 3400 mètres d'altitude pour les plus hautes et un cadre de vallée profonde. Donc on arrive à percevoir ce paysage à l'arrière-plan de la photo que vous avez sous les yeux. Et le site de Monte Alban jouit d'un climat tempéré, chaud, relativement sec, pour dire que le climat est sensiblement différent de celui de la vallée de Mexico. C'est une autre région qui est pas loin hein, de la vallée de Mexico, mais enfin qui est quand même pas à côté non plus, et le climat est différent. Les conditions climatiques sont différentes. Les constructions se trouvent au sommet d'une éminence qui domine de 400 mètres la plaine environnante. Et je le redis, la plaine elle-même est à 1500 mètres d'altitude par rapport, disons, au niveau de l'eau. Et comme on le voit ici, il s'agit d'une esplanade qui est entourée de ravins, de falaises, qui sont plus ou moins abruptes, si vous voulez. Et on peut dire de Monte Alban qu'elle se présente comme un nid d'aigle. C'est comme un nid d'aigle, cette ville, hein, qui, par ailleurs, à cet emplacement précis, contrôle 3 vallées, dont la vallée de l'Oaxaca. Il y a 3 vallées qui vont converger à cet emplacement stratégique, stratégique parce qu'il est élevé à 400 mètres au-dessus de la plaine, de la vallée principale. Donc c'est vraiment donc un lieu idéal et on comprend l'installation de gens, de Zapotèques à cet endroit-là. Ajoutons à cela que l'esplanade en question a été entièrement modelée de main d'homme. C'est un aménagement qui est considérable, colossal, qui a pris plusieurs siècles pour aplanir, si vous voulez, ce promontoire rocheux qui fait à peu près 750 mètres de long, un petit peu plus, parce qu'en fait 750 mètres, c'est l'esplanade qui est occupée par les bâtiments. Hein. Donc il a fallu effectivement un travail de terrassement, d'aménagement à la surface de ce promontoire rocheux, si vous voulez. Donc c'est un travail tout à fait considérable. Alors essayons de prendre un peu de recul, je ne sais pas si ma photo là est intéressante, si elle apporte quelque chose par rapport à la précédente, mais enfin voilà, c'est ce qu'il faut imaginer, une sorte d'éminence, une sorte de promontoire qui a été aplani, terrassé, aménagé sur plusieurs siècles, mais enfin on sait que la ville a été habitée sur 2500 ans, donc on a eu le temps effectivement de faire ces aménagements. Et j'insiste beaucoup, ce sont bien d'énormes travaux de terrassement qui ont permis de construire ce que l'on a sous les yeux, cette esplanade dont vous avez pris les dimensions à l'instant, donc 750 mètres sur 250 à peu près, et là s'élèvent les principaux monuments, c'est-à-dire les temples, jeux de bal, on va en voir un dans un instant, et palais, et donc ces monuments sont bien conservés, c'est-à-dire que la ville compte parmi celles qui sont les mieux conservés du Mexique aujourd'hui. Alors, des stèles à inscription hiéroglyphique sont par ailleurs associées à ces édifices, ce qui nous fait dire que les Zapotèques constituent un peuple cultivé, c'est un peuple dont l'origine n'est pas certaine. Tout ce que l'on peut dire des Zapotèques, c'est que ces derniers n'étaient pas des Nahuas. Ils ne parlent pas le Nahuatl, comme le parlent par exemple les Toltecs ou encore les Aztèques. On sait que les Toltecs, les Aztèques sont des Nahuas, pas les Zapotèques. L'origine est assez mystérieuse, un peu comme les Olmèques, et ils ont leur propre langage, propre écriture, mais c'est important de dire effectivement que là, ben, on va trouver des stèles hiéroglyphiques, et comme on fait démarrer Monte Alban 1 vers 500 avant notre ère, ça veut dire qu'on y trouve ici bah, les toutes premières inscriptions hiéroglyphiques, ou elles comptent parmi les premières inscriptions hiéroglyphiques de Mésoamérique. Bon. Les flancs des collines, maintenant. Les flancs des collines que l'on ne voit pas, que l'on imagine mal. On a dit c'est une esplanade qui domine qu'un promontoire et les côtés sont des ravins finalement abrupts pour certains. Et justement ces flancs de collines, ces falaises si vous voulez, sont creusées de tombes souterraines qui sont plus ou moins spacieuses. On en verra une tout à l'heure. Les parois de ces tombes sont couvertes de fresques à sujet religieux. C'est pas systématique, mais la plupart quand même présentent des peintures murales, des fresques à sujet religieux. et c'est dans ces tombes qu'on a trouvé ce riche mobilier funéraire, notamment ces urnes que j'évoquais, des urnes en terre cuite, ornées de personnages en relief. Je vais vous les présenter, quoi qu'il en soit, les tombes, qui pour certaines, c'est la tombe numéro 7 de Montalban, étaient inviolées. Donc aucun spoliateur n'était passé par là pour vider la tombe. Ces tombes se sont révélées vraiment des trésors de bijoux, d'objets de toutes sortes, et notamment de céramique ou de fer cuit. Dès l'origine de la ville, qu'on fait remonter en 500 avant notre ère. D'ailleurs, j'ai pas pensé à le rappeler, mais vous le savez, vous avez déjà des repères chronologiques. Si on fait démarrer Montalban dès 500 avant notre ère, ça veut dire que la ville est antérieure à Teotihuacan. Teotihuacan verra le jour 100, peut-être 200, voire 300 ans plus tard. Après Montalban. La ville est plus ancienne que Teotihuacan, c'est toujours à signaler quand même. Bon. Et donc, dès l'origine de la ville, le marché, probablement situé là, c'est-à-dire sur la place centrale de l'esplanade que l'on a sous les yeux, le marché concentrait les produits de toute la région. C'est-à-dire que la cité de Montalban attirait ceux qui vendaient ou qui achetaient du sel, mais pas seulement, la pierre, le bois, les textiles, la céramique faisaient l'objet d'un commerce donc assez intense, ici, là, sur la place de l'esplanade. Pas seulement, parce qu'on sait que les apothèques étaient aussi paysans, qu'ils étaient aussi chasseurs et qu'ils tiraient donc des animaux chassés, notamment le cerf, tout un tas de choses tout à fait intéressantes que l'on verra. Si on ne les voit pas aujourd'hui, on les verra la semaine prochaine. Voilà, et donc à cet aspect, disons, économique, qui est quand même toujours très important à signaler, on ajoutera une élite locale. L'élite locale affichait les symboles de son pouvoir. Vous allez me dire, comme le feront plus tard les Aztèques, c'est vrai, mais donc il faut encore le dire pour donc les apothèques de Montalban, une élite locale qui affiche les symboles de son pouvoir par la construction de temples, de lieux de culte et de palais. Il y en a un notamment qui va nous intéresser. Là-dessus, les spécialistes nous disent qu'au cours de cette première phase, Montalban I, 500-200 avant notre ère, la population zapothèque ici croît, et même croît rapidement, ce qui aurait provoqué une pénurie des ressources, obligeant même les dirigeants de Montalban à exiger à partir de 200 avant notre ère un surplus de tribut de la part des communautés alliées. Donc c'est comme ça qu'on passe de Montalban 1 à Montalban 2. Pourquoi 200 avant notre ère, changement de politique, c'est-à-dire que pour maintenir un niveau de vie, hein, qui est le niveau de vie de l'élite locale zapothèque, on décide d'exiger un surplus de tribut des communautés alliées, qui bien sûr ne sont pas d'accord. Donc des guerres s'enclenchent, des guerres se succèdent à partir de 200 avant notre ère. On passe de Montalban 1 à Montalban 2. 200 avant notre ère, 200 de notre ère. Donc des guerres qui se succèdent, mais la capitale, c'est-à-dire Montalban, la capitale des apothèques, l'emporte et prend le contrôle de la région. Et quand on visite le site de Montalban, on le voit. On voit effectivement le souvenir iconographique, et pas seulement iconographique, c'est un souvenir hiéroglyphique de ces guerres, justement, qui sont enclenchées autour de 200 avant notre ère. Alors, on le voit notamment sur un bâtiment qui est qui est un peu mystérieux, parce que vous trouverez dans les ouvrages que c'est le temple des Danzantes ou le palais des Danzantes. Donc bon, alors je vous le montre, on va en parler. Voici la projection isométrique et le plan du temple des Danzantes. Donc des danseurs, si vous voulez, mais ce ne sont pas du tout des danseurs. En fait, vous avez ici un témoignage de ces guerres, et ce témoignage se traduit par la multiplication des représentations guerrières et sacrificielles. Ce que les premiers archéologues qui ont vu cela ont pris pour des danseurs sont des victimes sacrificielles. Et oui, on fait la guerre, et donc la guerre apporte son lot de prisonniers, ces prisonniers sont sacrifiés, et il y a eu cette curieuse confusion. On a cru effectivement que c'était donc des danseurs. Pas du tout, donc ce sont des victimes sacrificielles. Mais enfin, c'est resté, et l'appellation traditionnelle est toujours donc la même. Vous trouverez ou bien le temple, ou bien le palais des Danzantes. Hein, c'est plutôt un palais, mais enfin, donc vous trouvez aussi l'appellation de temple. Bon. Alors, quoi qu'il en soit, C'est un bâtiment qui est extrêmement intéressant à Montalban parce qu'il rappelle l'époque, à l'époque qui est ce changement qui s'opère. Justement, donc nous sommes à l'issue de Montalban I, autour de 200 avant notre ère, si on veut correctement dater ce bâtiment des Danzantes et les bas-reliefs qui l'accompagnent. En tout cas, c'est l'exemple le plus significatif pour parler de ces guerres. Ce temple, palais mal nommé des Danzantes est composé, comme le montre la projection isométrique qui est ici, est composé d'une plateforme à deux corps superposés, donc je le montre avec le pointeur, les deux corps superposés sont ici, ce qui crée une sorte de plateforme ou d'esplanade qui est surélevée grâce aux deux corps en question. On y accède par un escalier, on voit très bien l'escalier qui est ici, un escalier qui est assez monumental, et on arrive à la plateforme elle-même, et là se trouve une construction qu'il faut bien reconnaître comme une construction de type palatial. Ça n'est pas un temple, ça n'est pas un sanctuaire que l'on a en haut de cette plateforme. C'est vrai que les plateformes à corps superposés sont des pyramides. En haut des pyramides, on a des temples. Mais les temples des Mésoaméricains n'ont jamais ressemblé à ce que l'on a ici. Ce que l'on a ici est beaucoup plus caractéristique du type palatial. C'est-à-dire, donc, un bâtiment avec une cour centrale. On y accède par une seule porte qui est dans l'axe de l'escalier. Donc les murs sont totalement fermés, il n'y a pas de fenêtre, il n'y a pas d'ouverture autre que la porte d'accès, que la porte axiale. Par contre, dans la cour intérieure de ce petit palais, il y a d'autres portes qui donnent accès, on peut l'imaginer, à des appartements, à des pièces. Et là on retrouve le modèle palatial de Teotihuacan. Je ne sais pas si vous rappelez le palais des oiseaux-papillons qu'on avait vu ensemble. C'est tout à fait le type palatial de l'époque qu'on trouve à Teotihuacan. Donc, on est partagé. On ne sait pas si c'était finalement un temple ou un palais. Ceux qui disent c'est un palais se fondent sur l'explication que j'ai donnée, c'est un type palatial. Ceux qui disent c'est un temple se fondent sur les reliefs, c'est-à-dire les stèles dressées à cet emplacement qui montrent des victimes sacrificielles et qui connotent une esplanade sacrée, c'est-à-dire un lieu de culte, un lieu où on sacrifiait, d'où les stèles que l'on a sous les yeux. Mais après tout, ces personnages peuvent marquer la gloire du seigneur, du roi qui a remporté telle bataille. Il le rappelle justement en faisant sculpter ces personnages. En tout cas, quoi qu'il en soit, ce bâtiment, temple ou palais, qu'importe, laissons la discussion donc aux spécialistes. Le bâtiment est orné de dalles gravées à l'effigie de captifs vaincus, rituellement sacrifiés. L'iconographie ne fait aucun doute. Là, de ce point de vue-là, on ne peut pas se tromper. Sur certaines stèles à ce propos, la défaite de villages entiers est même représentée par le toponyme. Car il existe effectivement dans cette écriture des apothèques des glyphes qui signalent tel toponyme, tel lieu, telle ville est représentée par un glyphe. Et on arrive aujourd'hui, par un jeu de recoupement, à désigner le toponyme, à l'interpréter ou à le lire, si vous voulez. Le toponyme. Et le plus souvent, quand on a ce type de stèle, on a à côté du toponyme, donc le glyphe qui représente le lieu où s'est jouée la bataille remportée par les apothèques de Montalban, est dessinée à côté la tête décapitée du dirigeant de la ville qui a perdu son combat contre la ville de Montalban. Bon. Alors ces stèles ne se réduisent pas qu'à celles que vous avez sous les yeux, en voici d'autres, voilà, l'ensemble dit des Danzantes, 500-200 avant notre ère, c'est plutôt à la fin de Montalban I, que l'on découvre effectivement, que l'on a construit cet ensemble. Et là, vous avez une série de stèles sculptées qui conduit à la porte que l'on voyait justement tout à l'heure. Phase donc ancienne, ce qui fait de ce bâtiment finalement un des bâtiments les plus anciens qui soit à Montalban, donc c'est son intérêt, très très intéressant pour cela. Antérieure même aux constructions qu'on pourrait trouver à Teotihuacan ou juste contemporain aux toutes premières constructions de Teotihuacan. Et alors justement, comme c'est ou bien antérieur ou juste contemporain, le style qui va se découvrir sur ces stèles-là ne relève pas du tout du style de Teotihuacan, mais plutôt des Olmèques. Là, ici, on peut faire des comparaisons entre le vieux peuple des Olmèques, les Olmèques, on va bientôt en parler, les Olmèques constituent le peuple le plus ancien, on va peut-être pas dire ça, mais la civilisation évoluée de Mésoamérique, la plus ancienne qui soit, puisqu'elle nous situe au deuxième millénaire avant notre ère, c'est celle des Olmèques. Et les Olmèques disparaissent au moment où Monte Alban apparaît. Et là, on peut articuler les deux, hein. Donc c'est pas comme avec Teotihuacan. Teotihuacan n'existait sans doute pas, hein, donc à l'époque de la construction de ce bâtiment. Mais par contre, les Olmèques, il y avait encore les derniers Olmèques, hein, qui étaient là. Ce qui explique aussi, hein, donc une écriture chez les apothèques, comment ou d'où vient leur écriture, c'est sans doute de leur relation avec les Olmèques. Et jusque dans le style des bas-reliefs, le style donc des danseurs, des danzantes, on va retrouver un style Olmèque. Et la présence des signes hiéroglyphiques semble le confirmer, bien sûr, écriture très archaïque, mais qui semble donc rappeler celle des Olmèques. Alors bon, donc voici d'autres exemples de ces stèles. Je vous disais effectivement que certaines d'entre elles étaient accompagnées de glyphes qui peuvent renvoyer au toponyme des villes vaincues. Bon, ben ça semble être le cas ici. Vous voyez à côté donc du personnage qui est ici, il y a déjà ici des systèmes, un système hiéroglyphique qui se met en place. Et quant au style Olmèque, bon, je ne sais pas si vous visualisez les sculptures Olmèques, mais elles ont une particularité. Les têtes des représentations Olmèques, que ce soit des sculptures ou des peintures ou autre chose, les têtes ne sont pas coiffées ou rarement coiffées. Ou si elles sont coiffées, elles sont coiffées de casques, des casques qui sont tout en rondeur. Et c'est exactement ce que l'on va retrouver ici. Voilà, donc la tête qui se profile ici est clairement de style Olmèque. Là-dessus, continuons notre historique. Donc, nous en étions là, autour de 200 avant notre ère. Une pénurie oblige les souverains apothèques de Montalban à exiger un tribut plus important des villes voisines, qui sont elles aussi apothèques. Finalement, donc, Montalban remporte la partie et le succès de l'expansion apothèque au cours de cette phase est aussi démontré par l'installation de populations apothèques dans le centre du Mexique et plus précisément à Teotihuacan. Ça, nous l'avions dit, souvenez-vous. On avait dit qu'il existait à Teotihuacan tout un quartier de apothèques et d'autres populations d'ailleurs qui s'étaient installées à Teotihuacan. Donc c'était le cas des apothèques, ce qui montre que là maintenant, quand on arrive à Monte Alban II, les relations s'intensifient entre Teotihuacan et Monte Alban II, hein. Parce que donc les rois sont des apothèques de Monte Alban sont maintenant donc très puissants, forts de leur puissance, ils entretiennent des relations privilégiées avec Teotihuacan, d'où ces gens de Monte Alban ou ces apothèques étaient à Teotihuacan. Bon, alors là-dessus, les conflits s'apaisent, la structure sociale des apothèques se diversifie aussi, donc on y trouve des nobles, des prêtres, des guerriers, des artisans, des agriculteurs, donc c'est une société qui est très structurée avec le roi apothèque, qui est effectivement au-dessus. Quant aux rites, les rites apothèques deviennent plus complexes, ils incluent le sacrifice d'êtres humains, le sacrifice aussi d'animaux, l'autre sacrifice, on sait qu'il était pratiqué aussi par les apothèques, donc ce sont des cérémonies complexes et à cela s'ajoute quelque chose qui est peut-être une grande particularité des apothèques, ce sont des cérémonies funéraires qui sont très élaborées, sans quoi on ne comprendrait pas les tombes qu'on a trouvées à Monte Alban, qui sont riches, spacieuses, décorées de peintures et qui suggèrent bien sûr que les rituels funéraires étaient évolués, étaient complexes. Bon. Et au cours de cette phase, disons Monte Alban II, donc c'est Monte Alban II, oui c'est déjà donc en partie donc une ville qui était très importante, on peut penser que la ville abritait à peu près 25 000 habitants. Environ, hein. Donc vous trouvez des chiffres qui varient considérablement d'un historien à l'autre. Enfin bon, 25 000 habitants, c'est beaucoup, ça n'est pas la population de Teotihuacan, puisqu'au même moment, Teotihuacan était peuplé de 250 000 ou 300 000 habitants, c'est sûr, mais enfin, Teotihuacan, c'est un cas à part, quand même, hein, dans l'histoire de la Mésoamérique. Donc, 25 000 habitants, c'est pas mal, quand même, c'est beaucoup. C'est une grosse ville, avec des habitants dont les différences de statut se reflètent dans l'habitat. Ça, ce sont les archéologues qui l'ont démontré. Quand ils ont fouillé les quartiers résidentiels, ils ont révélé des différences en taille et en qualité des résidences en question. Donc c'est une société hiérarchisée où chacun est à sa place, contrôlé par un roi zapothèque, etc. Si on s'attache maintenant donc à la phase 3, qui est la phase de l'apogée de Montalban, on remarque qu'il y a une tendance qui s'inverse. Si au cours de Montalban II, la population zapothèque s'était installée à Teotihuacan, au cours de Montalban III, c'est les gens de Teotihuacan qui s'introduisent à Montalban, qui viennent s'installer à Montalban. Et c'est ce que suggère la découverte de céramiques de style Teotihuacan, voire, disent les archéologues, quelques sépultures, quelques édifices aussi qui peuvent rappeler les édifices que l'on a vus à Teotihuacan. Bon, donc en tout cas, ça montre la puissance de la ville. Elle est à son apogée, c'est Montalban III. C'est la phase Montalban III. Alors on verra les céramiques des apothèques de Montalban sont superbes, c'est vraiment admirable. Nous sommes dans la continuité, bien sûr, de la grande céramique de Teotihuacan. Enfin, les dirigeants de la métropole mexicaine, donc Montalban, se seraient alliés donc avec d'autres populations, et dans un but qui est strictement commercial. En effet, dans cette vallée de l'Oaxaca, on trouve du mica, et le mica a été un enjeu commercial extrêmement important entre les apothèques d'un côté, les gens de Teotihuacan de l'autre, que sais-je encore, hein. Le mica, on trouve du mica effectivement dans la vallée de l'Oaxaca. Voilà pour donc ces quelques généralités. Maintenant qu'on a un peu une idée du début de Montalban et jusqu'à sa phase, disons, d'apogée, Montalban III, voyons la ville. On va considérer la ville à partir de plusieurs plans. On va commencer par celui-ci. Et finalement, la ville n'est pas compliquée. Hein, c'est pas une ville très très compliquée sur son esplanade qui s'étend sur 750 mètres de long d'un côté, 250 de l'autre. Bon, pas très compliqué en fait. Alors, on va aller à l'essentiel et repérer deux gros pôles culturels. Comme la ville est parfaitement orientée, c'est pas compliqué, il y a un pôle culturel, au sud, qui est constitué de cette grosse pyramide qui est ici à gauche, numérotée 1 sur la légende, plateforme sud. Donc c'est en fait une grosse pyramide carrée qui, à la base, a 120 mètres de côté. Donc c'est qui est assez considérable quand même. La pyramide est accessible par un escalier que l'on voit ici sur le plan, qui nous conduit sur une plateforme qui est plus petite que la base de la pyramide, qui est à peu près 80 mètres de côté, et l'esplanade en question, de 80 mètres de côté, est occupée par deux petites pyramides, qui curieusement d'ailleurs sont désaxées. Vous voyez, ce sont les deux pyramides qui sont ici. Je vais m'approcher pour ceux qui sont au fond de la salle. Vous voyez, donc c'est le 1, dans ce qu'on appelle, on peut l'appeler différemment, moi je parle de pôle culturel sud, parce que c'est effectivement un gros complexe quand même culturel au sud. La base, c'est une pyramide carrée, 120 mètres de côté. Un escalier conduit à la plateforme supérieure, 80 mètres de côté. Là, il y a deux petites pyramides, désaxées l'une par rapport à l'autre, sur l'esplanade en question. Donc ça, effectivement, c'est le premier pôle. Mais à l'opposé, c'est-à-dire au nord, ici, au nord, vous avez tout un autre complexe culturel. On y accède par un large escalier qui est noté ici 9. Vous lisez escalier et portique. On va revenir sur le portique en question. Il est très important à signaler et à comprendre. Donc, quoi qu'il en soit, donc, un complexe au nord, on y accède par un large escalier qui gravit une plateforme notée 10. En tout cas, on accède à une plateforme, 10 plateforme nord, si vous voulez, sur laquelle est ménagée une sorte de place carrée en renfoncement. En tout cas, les côtés de la place sont renfoncés par rapport aux angles, si vous voulez. Et là, au milieu, se trouve un autel, l'adoratorio, l'hôtel principal, mais qui est un hôtel à ciel ouvert, si vous voulez, exactement ce que l'on a vu à Teotihuacan. Je ne sais pas si vous vous rappelez de la place de la Lune à Teotihuacan, ou encore de la citadelle à Teotihuacan. Ce sont de vastes places au milieu desquelles on trouve l'adoratorio, l'hôtel central, si vous voulez, et pour ceux qui sont au fond de la pièce, si on se rapproche, voilà comment c'est disposé, on voit bien le grand escalier, le grand portique finalement, escalier qui conduit à l'esplanade, le 10 par conséquent, et au centre, quelque chose qui est effectivement l'hôtel ou l'adoratorio. Bon, alors, ensuite, vous avez d'autres choses, bien sûr, que l'on va voir donc progressivement. On parlera de tout cet ensemble, tout ce complexe de bâtiments qui se trouve à l'ouest, le 2 et le 4 étant parfaitement similaires. Donc, ce sont des temples, on verra ça, ce sont des sanctuaires. L'un est appelé édifice M, c'est le 2, l'autre, le 4, est appelé édifice 4, et entre les deux se trouve le fameux temple ou palais des Danzantes, qui, je vous le rappelle, est sans doute le bâtiment le plus ancien de Monte Alban, d'une part, et c'est là qu'on trouve les stèles que je vous ai montrées qui rapportent les victoires des rois de Monte Alban à la fin de la phase de Monte Alban 1. Mais on verra d'autres choses, puisque par exemple, vous lisez sur la légende qu'il y a au niveau 8 ici, on en parlera tout à l'heure, un jeu de balles. Et c'est le jeu de balles qui est sans doute le mieux conservé de toute la Mésoamérique, si vous combinez le Guatemala, donc même finalement les jeux de balles mayas, il y en a de très très beaux mayas, mais donc celui-ci est particulièrement bien conservé, donc on en parlera, et ça vous donne voilà une idée d'ensemble. Développons un petit peu, on va considérer d'un petit peu plus près le complexe culturel nord, et on va se positionner précisément, alors à peu près précisément, on va se positionner, disons, quelque part ici, où je mets le pointeur. Voilà. Imaginez un photographe qui photographie de ce point-là sur une diagonale qui conduit comme ça, en arrière-plan, au 4, c'est-à-dire à l'édifice 4. Donc cette perspective, qui est précisément celle que je désigne avec mon pointeur, c'est la perspective que vous aviez tout à l'heure, c'est cette perspective-là. Donc ça vous donne des repères, c'est-à-dire que déjà, donc, on a deviné qu'à l'arrière-plan, là, hein, on a ce complexe, enfin cet édifice cultuel qu'on appelle édifice 4, on y reviendra tout à l'heure. On va d'abord s'intéresser à ce que l'on voit devant, là. Hein. Donc devant, c'est le 10, c'est la plateforme nord, si vous voulez, avec ses renfoncements, effectivement, on les voit. Les renfoncements sont ici, dotés donc de parois avec des degrés. Mais ce qui va surtout nous intéresser, c'est l'accès à la plateforme nord. L'accès, on le voit ici, à cet emplacement, à cet endroit-là. Or, l'accès est constitué d'un triple portique que l'on peut finalement qualifier de triomphal. Alors, on l'appelle triomphal parce que triple portique, triple porte, ça peut faire écho à des arcs de triomphe romains, bien qu'il n'y ait aucun rapport, bien sûr, entre l'architecture romaine et l'architecture mésoaméricaine, mais c'est comme, si vous voulez, donc un arc de triomphe romain. Donc un triple portique triomphal. Il est complètement ruiné, mais on peut en tirer quand même des choses tout à fait intéressantes. Il est ici, hein, donc je le montre avec le pointeur. Bon, il se situe au sommet des escaliers qui donne de l'autre côté, c'est-à-dire sur la place centrale. Et un nouveau jeu d'escaliers conduit maintenant à la plateforme du complexe cultuel nord. Bon. Alors ce triple portique triomphal qui se voit ici, là, à cet endroit-là, daterait de la fin de l'âge classique, nous disent les spécialistes. La fin de l'âge classique, je vous rappelle, c'est 9e-10e siècle. Après le 10e siècle, on passe à la phase post-classique. Donc, 9e, 10e siècle. Acceptons cette datation. Et ce bâtiment original se compose, alors on ne le voit peut-être pas très bien sur cette photo-là, donc on va se rapprocher aussitôt. Voici le détail. Voyez ? Donc on retrouve à l'arrière-plan notre édifice 4 sur lequel on reviendra, mais au premier plan ici, vous retrouvez le triple portique triomphal qui va présenter un détail qui ne manque pas d'être important à signaler. Donc signalons effectivement que d'abord ce triple portique est composé de piles carrées. On les voit ici, là, que je ne me trompe pas quand même, hein. Donc des grosses piles carrées, qui sont notamment ici, peut-être aussi ici, mais donc à côté de ces piles carrées, il y a de grosses paires de colonnes de maçonnerie, donc des colonnes, des piliers cylindriques en maçonnerie, qui sont assez impressionnants, et qui devaient porter avec les piles carrées donc une toiture en charpente, une charpente plate si vous voulez. On peut l'imaginer, ça faisait une sorte d'entrée triomphale, une entrée monumentale, sorte de propylée, on pourrait parler de propylée finalement. On a voulu donner un côté monumental, majestueux, donc à l'entrée de ce complexe nord. Bon. Or, qu'est-ce qui est important ici? Ce sont les colonnes, ce sont les piliers cylindriques. On peut se rapprocher avec le zoom, peut-être qu'on verra mieux justement la différence entre les piles carrées et les piles de plan circulaire. À droite, par exemple, on le voit, c'est une... Je ne me trompe pas quand même, enfin, je crois que c'est ça, hein, donc une pile circulaire. Bon, donc il y a des piles carrées et des piles circulaires. Or, c'est la première fois dans l'histoire de l'architecture mésoaméricaine que l'on voit apparaître des colonnes, tout simplement. C'est pour ça que c'est important. C'est un élément novateur de l'architecture précolombienne. Le pilier cylindrique, en un mot, la colonne, en maçonnerie. Alors bien sûr, on en a déjà rencontré, mais on en a rencontré à Tula, capitale des Toltecs. Souvenez-vous, les salles hypostyles de Tula. Du même coup, on en a retrouvé à Chichen Itza, la ville Maya Toltec, où on retrouvait là aussi, souvenez-vous, on l'avait vu en cours, des salles hypostyles, donc des salles à colonnes. Oui, mais ces exemples, Tula et Chichen Itza, sont juste postérieurs à l'exemple que je vous montre ici. Donc la capitale des Zapotèques et la construction qu'on a sous les yeux est antérieure d'un siècle, à peu près un siècle, peut-être même plus finalement, à Tula, à ce qu'on a vu à Tula et à ce qu'on a vu à Chichen Itza. Donc cet élément est important parce qu'à partir de là, la colonne Zapotèque va se répandre partout. On va la trouver à Tula, à Chichen Itza et partout dans le monde mésoaméricain. Bon, ça il fallait le signaler bien sûr. Revenons au plan. Alors maintenant, ce qui va nous intéresser, maintenant qu'on a une petite idée donc, de l'ordonnance des bâtiments, on a parlé du complexe cultuel, hein, dont il reste rien d'ailleurs, ou pas grand-chose, à voir sur place, qui est au sud. Il reste des choses qui sont plus intéressantes au nord, notamment ce portique que j'ai présenté comme étant un triple portique triomphal conçu exactement comme des propylées, finalement, qui donne de la majesté à cette entrée du complexe nord. Et d'ailleurs, en se rapprochant, si je zoome sur la partie, vous verrez mieux là, sur le plan. Vous voyez comment se constitue le triple portique triomphal. Vous voyez ce jeu de grands piliers quadrangulaires et les colonnes qui sont à côté. Mais ça délimite bien trois entrées, une de trois entrées, avec mon pointeur si je le reprends. Vous voyez, on peut les compter. Une entrée ici, une entrée là, une troisième là. Donc c'est bien un triple portique. Mais voilà, donc les architectes ont innové en imaginant quelque chose qui, effectivement, n'existait pas avant. Hein. Alors, par ailleurs, ces jeux d'escaliers qui sont constants, qui sont partout, sont aussi frappants à Montalban. Hein. Là, il y a un vieil héritage des cités Olmec. Ces jeux d'escaliers, on les voit apparaître dans les cités Olmec, soit, mais ce sont bien les apothèques de Montalban qui vont donner à ces escaliers cette ampleur, cette importance. Ils vont les multiplier, les dupliquer sur les côtés des ensembles, etc. Donc effectivement, vous avez d'un côté l'escalier qui de l'esplanade conduit au portique, et après le portique, un deuxième escalier qui conduit donc à la plateforme nord. Bon, alors donc, intéressons-nous maintenant à ce qui existe entre ces deux massifs, sud et nord. Donc il y a, à l'ouest de l'esplanade proprement dit, trois constructions qui tournent le dos au précipice. Et d'ailleurs, j'apprécie ce plan parce qu'il vous donne les lignes topographiques qui laissent effectivement suggérer que c'est un ravin. Hein. Donc il y a donc quelque chose de très pentu, et c'est dans ces falaises justement qu'on a creusé des tombes où on a trouvé des objets qui sont très intéressants, que je présenterai un peu aujourd'hui et un peu la semaine prochaine. Donc quoi qu'il en soit, voilà, ces trois bâtiments vont nous intéresser. On peut s'approcher de ces trois bâtiments, donc le système M. Bon, je ne reviendrai pas bien sûr sur le palais des Danzantes, et le système E4. On va parler du système N et du système E4. Alors, de quoi s'agit-il? D'abord, les noms sont donnés par les archéologues. Les archéologues fouillent et donnent ces noms, donc, sur le vif, sur le moment, et ça reste par la suite. Alors, de quoi s'agit-il? Ce sont des complexes cultuels qui, chacun, sont enfermés dans une enceinte qui a 75 mètres de long. Donc, selon une symétrie qui est parfaitement axiale, vous imaginez une enceinte qui, donc, a 75 mètres de long et qui fait le tour du complexe en question. Alors, ça commence par un escalier. Donc, on accède au complexe par un escalier. Donc, alors, je vais reprendre mon pointeur. L'escalier est ici, là, ou encore là. Voilà, on y accède comme ça. Et l'escalier en question donne accès à une plateforme surélevée. Quand on accède à la plateforme surélevée qui est ici ou encore là, un deuxième escalier conduit à une cour intérieure qui est bien fermée, sainte, si vous voulez. Je vous parlais d'une enceinte de 75 mètres de long. Là, justement, elle a comme but d'enfermer donc la cour intérieure en question. Et à l'intérieur de la cour carrée, l'adoratorio, c'est-à-dire le petit autel, mais qui est à ciel ouvert. La cour est à ciel ouvert. Donc, un jeu d'escalier qui conduit à une première plateforme, puis un deuxième escalier qui descend à la cour intérieure avec l'adoratorio, et au fond de la cour, un nouveau jeu d'escalier à double volet qui conduit cette fois-ci en haut d'une pyramide. Pour reprendre le pointeur, voilà, ici, là vous avez une pyramide qui est quand même assez impressionnante, qui est composée de trois corps superposés. Les deux escaliers que j'évoquais qui sont ici conduisent à un temple, à une cella, à un Naos, si vous voulez. Hein. À travers ces deux édifices, le système N et le système 4, les archéologues déduisent certaines choses qui sont assez intéressantes. C'est l'expression, ces bâtiments seraient l'expression, du contrôle politique et religieux qui se manifeste au cours d'une phase qui est plutôt montée à Alban II. Donc en tout cas le pouvoir les rois le pouvoir sacerdotel aussi se manifeste par ce type d'édifice que les archéologues ont fini par appeler templo patio adoratorio. Temple parce qu'il y a bien un temple au sommet d'une pyramide, patio parce que le temple en question est précédé d'une cour à ciel ouvert au centre de laquelle il y a l'adoratorio, et l'adoratorio justement parce que je l'ai signalé à l'instant. Donc en fait, pour résumer les choses, on peut dire que ce système, qui d'ailleurs entre parenthèses, allait se répandre très largement partout en Oaxaca et même encore au-delà de l'Oaxaca, on allait retrouver ce type de complexe en trois parties. Donc il y a bien trois parties dans une enceinte qui a 75 mètres de long. Trois parties. D'abord une plateforme, puis ensuite une cour à ciel ouvert, et au fond de la cour, la pyramide avec son temple au-dessus. Donc templo, patio, adoratorio. Voilà, et ça allait effectivement se répandre partout. Alors, j'ai pas vraiment de reconstitution, mais il existe quand même ce document que je vous montre aussitôt, qui restitue, disons, en volume, les édifices de Monte Alban. Bon, donc, vous allez retrouver ici le complexe nord de Monte Alban, avec notamment le fameux portique, mais qui n'a pas été justement reconstitué, c'est un peu dommage, le triple portique triomphal, en se rapprochant, voilà ce que ça donne, voilà donc l'ensemble, vous voyez, du complexe nord, sa cour à ciel ouvert, l'adoratorio qui est au milieu, puis on distingue bien la triple entrée, vous voyez, qui domine, qui devait être vraiment majestueuse, portant une toiture évidemment, faite de colonnes et de piliers carrés. Mais pour revenir à mon système de templo, patio, adoratorio, là je pense qu'avec l'agrandissement, vous le voyez mieux. Vous voyez donc comment s'articulent les trois parties. Donc il y a un escalier qui conduit à une plateforme, puis un deuxième escalier qui descend dans la cour qui est fermée de son enceinte, au milieu de l'adoratorio, au fond de la cour un nouvel escalier qui conduit au sommet d'une pyramide. Et de ces ensembles, système N et système 4, ce que l'on a conservé finalement surtout, ce qui est un des mieux conservés, c'est l'édifice M que voici. Voilà ce qui reste, si vous voulez, hein. Système, donc, ou édifice M, ensemble architectural. Alors là, j'ai résumé les choses, c'est-à-dire que si vous considérez tout l'ensemble, plateforme que j'ai j'ai décrites à l'instant. Cour carrée et pyramide, ça fait 75 mètres de long, symétrie axiale, 35 mètres de large. Sur la photo que vous avez sous les yeux, on ne voit pas la plateforme. La plateforme est quelque part par là, et il n'en reste quasiment plus rien. Par contre, on arrive à distinguer ici un petit peu le mur d'enceinte, et donc on devine que derrière ce mur d'enceinte, il y a ici la cour. La cour avec l'adoratorio, au milieu, au fond de la cour, c'est la pyramide, avec ses deux volets d'escalier, donc trois corps pour la pyramide elle-même, et là, tout d'un coup, on constate qu'au sommet de la pyramide, on va mieux le voir d'ailleurs sur une photo qui est plus récente, qui induit quelques restaurations bienvenues. Au sommet de la pyramide, c'est le même édifice, mais attention, la photo est plus récente, donc il y a eu des restaurations entre-temps. Et qu'est-ce que l'on constate? C'est qu'en haut de la pyramide, il y a un sanctuaire en dur, un sanctuaire construit en dur. On voit les arrachements des murs en question. Or, à l'époque à laquelle nous sommes, 100 avant notre ère, 200 de notre ère, c'est Monte-Alban II, vous le savez, les sanctuaires, c'est là, Naos, au sommet des pyramides, étaient toujours construits en matériaux périssables. Il n'en reste rien, d'ailleurs, à Teotihuacan, ou ailleurs, je ne sais où, donc par exemple, à Quiquilco, ou ailleurs encore, les sanctuaires proprement dits étaient construits en matériaux périssables. Et donc là, les apothèques apportent quelque chose de neuf, qui est le sanctuaire construit en matériaux durs, un naos construit en matériaux durs. Et la photo est intéressante parce que vous constatez que le temple en question, le sanctuaire, que vous pouvez appeler naos, ou je ne sais comment encore, bon, est précédé d'un portique à quatre colonnes. Alors c'est quand même intriguant, parce que là il y a un parallèle presque avec l'architecture grecque de l'Antiquité. Les temples grecs peuvent être pour certains tétrastyles, c'est-à-dire présentant quatre colonnes, parfois entre des antes, donc tétrastyle in antis, donc c'est-à-dire cette formule que vous avez sous les yeux, que l'on voyait d'ailleurs sur le plan précédent. Je peux y retourner très vite, où là on va effectivement repérer, alors, je ne sais pas si on le voit bien sur la reconstitution, peut-être pas sur la reconstitution, hein, ou assez mal, mais par contre sur le plan précédent, vous voyez là, si j'agrandis, on voit bien pour le système M, les petites colonnes, les quatre colonnes, devant un naos, avec deux murs qui reviennent devant, comme des antes, enfin, on croirait le temple grec. Il n'y a aucun rapport, hein, il n'y a aucune relation, bien sûr, entre le monde gréco-romain et ce monde mésoaméricain. Donc c'est en fait une coïncidence. On construit un sanctuaire et on arrive à une formule qui est à peu près comparable. Voilà. Donc c'était ce qu'il fallait dire sur ce complexe, sur cette pyramide, un sanctuaire en dur, alors que ailleurs il est toujours en matériaux périssables, ailleurs par exemple à Teotihuacan. Et il y a quelque chose de plus que fait apparaître la restauration que l'on a sous les yeux, c'est un couronnement très original. Alors en fait, alors le voilà, donc là c'est le couronnement donc de la pyramide, de l'édifice N. Alors en fait, original oui et non, on sait par exemple que la structure en talus de Tabero vient de Teotihuacan. On l'avait commenté à Teotihuacan. Donc un talus 45 degrés à peu près, puis un panneau vertical qu'on appelle tablero, table verticale si vous voulez. Donc ça vient plutôt de Teotihuacan. Ça montre que les relations déjà entre Teotihuacan et Monte-Alban sont denses à cette époque. Mais l'originalité, c'est le décor, et c'est marqué sur la projection, c'est ce couronnement, cette frise saillante à merlon inversé. C'est original, c'est peu banal, c'est décoratif, ça ne sert pas bien sûr à fortifier donc le haut de la pyramide, c'est purement décoratif. Une frise saillante à merlon inversé, inventée donc par les apothèques. Alors que nous resterait-il à découvrir ici à Monte-Alban? Donc là vous avez une vue panoramique où on va retrouver certaines choses, toujours les mêmes d'ailleurs choses, c'est-à-dire que le point de vue privilégié que l'on a ici au premier plan, c'est le complexe nord, d'accord, complexe culturel nord, ici le triple portique triomphal qui y conduit, bon. À l'arrière-plan, mais là on ne les voit plus, donc les deux systèmes bon, que j'ai présentés, au milieu le temple des Danzantes. Alors que resterait-il à découvrir? Il reste encore quelques édifices à montrer, par exemple les édifices qui se trouvent au milieu de l'esplanade, hein, c'est-à-dire ici, le 5 et le 6. Le 5 étant appelé édifice J, dont la fonction est parfaitement énigmatique, et le 6, qui est une plateforme centrale, qui est dotée de deux petits sanctuaires, on va voir ça. Hein. Donc c'est une sorte d'épine dorsale, qui occupe le centre de l'esplanade, avec ses deux édifices, l'un qui est curieusement totalement désaxé, c'est le 5, et l'autre qui est plus traditionnel. Alors on va commencer par le 5. On commence par le 5, puis ensuite on parlera du 6, et il nous restera plus qu'à découvrir le jeu de balle, c'est-à-dire le numéro 8, qui se trouve ici, là, pas loin finalement du complexe culturel nord, qui adopte d'ailleurs un plan, je le signale d'emblée, qui adopte ce plan en H écrasé. Je ne sais pas si vous voyez sur mon plan le H écrasé, typique du jeu de balle, on y reviendra tout à l'heure. Mais je commence par le 5, édifice J, puis le 6, et ensuite on verra le 8, le jeu de balle. Donc l'édifice J, qu'on appelle aussi parfois l'observatoire, mais on a démontré que ça n'en était pas un observatoire du tout. Donc c'est l'édifice le plus mystérieux de Monte-Alban, parce qu'il occupe une place fondamentale, hein, on a parlé d'épine dorsale de l'esplanade carrément. Bon, alors, il est désaxé, il offre un profil qui est peu banal, qu'on a du mal à comprendre, et à cela s'ajoute un tunnel qui est ménagé à l'intérieur, qui est ménagé à l'aide de fausses voûtes en grandes dalles disposées en matière, et le tunnel passe de part en part, ou traverse de part en part, l'édifice en question. On y accède ici, par la porte qui est là, et voilà ce que ça donne à l'intérieur. Le tunnel couvert de dalles en bâtière qui traverse de part en part l'édifice, et donc on parle plutôt de fausse voûte, car en effet ce n'est pas la voûte telle que les Mayas l'ont inventée, la voûte en dur, la voûte en mortier, mais c'est un système tout simplement, comme on le voit à l'arrière-plan ici, de grosses dalles monolithes qui tiennent par un jeu de contrepoids, si vous voulez. Donc là on parlera de fausse voûte en grandes dalles disposées en bâtière. Et pendant un certain temps, c'est quand même très original, hein, faut quand même le reconnaître, sur le plan architectural, quand on sait que l'observatoire est daté de 150-100 avant notre ère, c'est-à-dire le tout début de l'époque de Monte-Alban II, c'est quand même tout à fait remarquable. Et certains y ont vu un observatoire astronomique, mais il faut éliminer cette thèse. Parce que les astronomes, les spécialistes, bon, en considérant toute chose, même la précession des équinoxes, n'ont pas pu confirmer l'orientation. Ils n'ont pas pu confirmer que ce serait un instrument de visée, même en considérant la carte du ciel à l'époque, c'est-à-dire il y a plus de 2000 ans de ça. Bon. Donc il faut plutôt, je pense quand même, écarter cette thèse. Mais ça n'enlève rien à l'affaire, c'est-à-dire qu'on sait que les connaissances scientifiques des apothèques étaient très très évoluées, hein, ce qui leur permettait d'ailleurs de renforcer leur emprise sur les choses. On sait que les apothèques notaient les mouvements des astres, utilisaient un calendrier, c'est encore un héritage Olmec comme le système hiéroglyphique qu'ils utilisaient, et justement l'écriture qu'ils utilisaient servait autant comme moyen d'expression et de communication que comme solution de sauvegarde de ce cumul de savoir. Donc ils étaient des scientifiques. C'est pour ça qu'on s'est précipité à dire le bâtiment est un observatoire. Parce qu'ils faisaient des observations très très poussées sur le plan des astres. Hein. Mais en fait, non, en fait, on ne sait pas. Donc c'est tout à fait mystérieux. Alors passons donc à l'édifice qui se trouve à l'arrière-plan, qui est ici. Et donc cet édifice à l'arrière-plan que l'on va voir maintenant par devant est beaucoup plus traditionnel, c'est-à-dire c'est une plateforme allongée comprenant un sanctuaire à chaque extrémité, donc deux sanctuaires donc à chaque extrémité de la plateforme. Et on y accède, remarquez-le, par ces jeux d'escaliers qui décidément ici à Monte-Alban prennent donc un aspect spectaculaire. Et c'est la première fois d'ailleurs, hein, c'est la première fois qu'une ville à cette époque, hein, donc c'est une époque quand même assez reculée, c'est Monte-Alban II. C'est bien la première fois que l'on voit des dispositifs d'escalier aussi complexes, aussi élaborés et aussi répétitifs ou systématiques dans une ville. Donc les apothèques apportent aussi ça aux villes. Mais sinon, oui, bon, l'ensemble est plus banal, bien sûr. Et enfin, resterait sur le plan de l'architecture à Montalban, et pour faire un tour à peu près complet de la ville, le jeu de balle. Le jeu de balle. Vous rappelez sur le plan qui présentait un plan en H écrasé. Donc le voilà, ce jeu de balle. Il est très très bien conservé. Ça permet de découvrir ces aires de sport sacré qui déjà à cette époque sont à leur apogée. Mais voilà, donc l'époque est quand même relativement reculée dans le temps. Ce qui fait que le jeu de balle de Montalban donc est un peu précurseur de ce que l'on va découvrir chez les Mayas, avec cette disposition en H écrasé que vous retrouvez ici. Attention là, le H est retourné, hein, donc il faut le rabattre d'un quart de tour si vous voulez pour retrouver le plan en H écrasé. Enfin sinon c'est bien comme ça qu'il faut le voir quand même. Les apothèques de Montalban, quand ils mettent au point ce jeu de balle, vont effectivement mettre au point le jeu de balle le plus typique en fait, qui va se reproduire ensuite en pays maya. Donc ça annonce la formule un petit peu plus tardive de Copan. À Copan en pays maya, vous trouverez un jeu de balle qui est assez comparable. Ou alors ailleurs, donc du côté de la vallée de Mexico, cette fois-ci, à Xochicalco, qu'on avait déjà évoqué pour son superbe temple du serpent à plumes. Là, donc, on peut trouver un jeu de balle qui est complètement ruiné d'ailleurs. Hein, sur place, on n'y voit rien du tout. Mais enfin, on sait qu'il y avait un jeu de balle adoptant ce plan en H écrasé. Et donc, ça illustre un élément essentiel de l'aménagement urbain, d'autant mieux que le jeu de balle, ici comme ailleurs, est inscrit dans le centre cérémoniel. Il jouxte le complexe culturel nord. C'est bien une aire de sport sacré. Il en existe des centaines d'exemples en Mésoamérique. Il y a même un spécialiste qui s'appelle Caladoir, qui en mentionne près de 2000 en Mésoamérique. Donc, il en aurait répertorié 2000, depuis le Guatemala jusqu'aux cités des Anasazi. Si vous vous rappelez des Anasazi, donc au sud-ouest des États-Unis, on avait introduit notre programme par cela, par les Pueblos et les Anasazi. Donc, si vous considérez effectivement cette vaste aire du Guatemala jusqu'à celle des Anasazi au sud-ouest des États-Unis, Taladoir nous dit qu'il y a 2000 jeux de balles. On peut recenser 2000 jeux de balles. Le voici mieux photographié encore, de façon à préciser ou à rappeler que les spectateurs se tiennent en haut des plateformes. Ce que vous avez ici, c'est-à-dire ce que je montre ici avec mon pointeur, donc ne sont pas des gradins, sont pas des escaliers non plus, hein, même si ça peut avoir cette apparence un petit peu, pas du tout. En fait, il s'agissait de construire deux plateformes surélevées, et comme ces plateformes sont construites avec du mortier, enfin des matériaux qui peuvent pas tenir en vertical, donc on crée ces talus, hein, qui ont à peu près 45 degrés, comme d'habitude, mais sinon les spectateurs, vous devez les imaginer au-dessus, en haut, hein, voilà, de ces talus à forte pente. Et donc, ils observent le spectacle en contrebas. Donc, on imagine les joueurs. Chaque équipe occupe donc un espace du terrain. Une équipe se met ici. L'autre équipe se met de l'autre côté. Au milieu, ici, il faut imaginer que deux anneaux, comme des paniers de basketball, si vous voulez, sont suspendus en hauteur. Et il s'agit de faire passer une balle de caoutchouc de 3 kilos par l'anneau en question. Parfois, il y a un ou deux anneaux. On peut essayer de le visualiser comme cela. Mais attention, le document que vous avez sous les yeux est un document aztèque, un document par ailleurs colonial, hein, donc est plutôt aztèque, donc 16e siècle. Enfin, le document est intéressant, même s'il nous éloigne considérablement des apothèques, au moins il a le mérite de dire que le plan mis au point par les apothèques, 1500 ans plus tôt, demeurait toujours chez les aztèques. C'était toujours vrai chez les aztèques. Et vous retrouvez bien ici un H écrasé. Ah, c'est net, hein, le H écrasé, c'est très net. Donc deux équipes qui s'affrontent. Alors là, il faut voir bien sûr des guerriers aztèques. D'ailleurs, remarquez comment ils sont accoutrés. Ça correspond au cours de la semaine dernière. Vous voyez les coiffes de plumes, les boucliers en plumes, donc la parure, les ornements sur le visage ou ailleurs. Donc ce sont deux équipes qui s'affrontent de part et d'autre. Bon, c'est pour donner une petite idée, si vous voulez, hein, de ce qu'est ce jeu de balle. Et enfin, je pense que arrivé à ce moment du programme de l'année, vous êtes en mesure de comprendre que l'équipe qui avait remporté le jeu de Bâle était l'équipe qui était sacrifiée. Je pense que maintenant vous êtes en mesure de le comprendre. Après tout ce qu'on a pu dire lors des séances précédentes, vous avez assez de moyens maintenant de comprendre ça. L'équipe qui triomphe donc est sacrifiée. Ça peut être seulement le capitaine, si vous voulez, donc de l'équipe qui est sortie vainqueur, qui est sacrifiée parce que effectivement c'est essentiel à leurs yeux, et c'est un service immense que l'on rend finalement à cet univers pour qu'il continue de fonctionner. Il faut ce sacrifice humain qui soit perpétuel. Donc c'est un grand honneur, effectivement, de finir sa vie comme cela. Voilà, avec les explications qu'on a données concernant les Aztèques les fois précédentes, je pense que vous êtes en mesure de le comprendre. Alors là-dessus, revenons aux apothèques. Et les apothèques, donc, dressaient des stèles en pierre où ils gravaient les scènes de leur victoire sur les autres peuples, ainsi que les sacrifices des guerriers prisonniers. Donc c'est ce que l'on a déjà vu. Voici encore une autre stèle qui le montre, qui était exposée au musée anthropologique de Mexico, où il y a tout un département, tout un espace, si vous voulez, consacré à la vallée d'Oaxaca, au musée anthropologique de Mexico. Et c'est là-bas, finalement, qu'on trouve les meilleures restitutions de tombes. On va maintenant explorer un petit peu les tombes apothèques. Hein. Par exemple, la tombe 104. Cette tombe 104, vous ne la voyez pas in situ. Enfin, vous pourrez, si vous êtes ami avec un archéologue, éventuellement, vous pourrez donc retrouver l'emplacement de la tombe 104 à Monte Alban. Mais sinon, donc, elle est restituée au musée anthropologique de Mexico, et elle est tout à fait caractéristique. Hein. Spacieuse, effectivement, en tout cas, on se l'imagine spacieuse, avec des murs peints. Les murs reproduisent des scènes qui se rapportent aux dieux, des dieux protecteurs du défunt, ou parfois donc des prêtres qui ont pratiqué la cérémonie funéraire. Enfin voilà, donc à Monte Alban, on a trouvé de remarquables tombes à chambre, comme celles que vous avez sous les yeux, tombes à chambre, les plus intéressantes étant les plus tardives, c'est-à-dire correspondant à Monte Alban III. Les plus intéressantes sont datées entre 450 et 600 de notre ère. En tout cas, c'est les plus intéressantes dans le sens de plus riches, sur le plan de la peinture, des objets qu'on a pu y retrouver. On n'a pas ici le détail de la couverture, mais la couverture est exactement comparable au tunnel de l'édifice J, que l'on a cru être un observatoire, c'est-à-dire un encorbellement en grandes dalles en bâtière, ou par des grandes dalles en bâtière, donc un jeu d'encorbellement, si vous voulez. Donc l'intérieur est revêtu de peinture. La plupart de ces peintures, je le disais, figurent des processions de dieux qui sont censées monter la garde autour du défunt. Il y a donc quelques prêtres aussi qui assistent la cérémonie funéraire. Il y a des signes hiéroglyphiques, ceux qui existaient sur les stèles du monument des Dents d'Antès. On va les retrouver ici à une époque plus récente, c'est Monte Alban III, et elles vont se multiplier. Donc là, on a trouvé pas mal de glyphes, hein, ce qui confirme bien que les apothèques avaient leur langue, leur système hiéroglyphique, sans doute inspiré des Olmèques, et ils consignaient avec ça un savoir, comme on l'a dit. Bon, donc, véritable écriture, si vous voulez. Il faut juste préciser qu'elle est aujourd'hui incomplètement déchiffrée, cette écriture apothèque, à la différence des Mayas. Donc l'écriture Maya est presque entièrement déchiffré à ce jour aujourd'hui. Bon, alors quoi qu'il en soit, donc découvrons maintenant le contenu de ces tombes. D'ailleurs, ici on a un petit détail, un petit aspect, ce qui permet de signaler que si les Mésoaméricains privilégiaient l'incinération, d'où les urnes funéraires que je vais vous présenter, qu'on pourrait presque dire urnes cinéraires, il y a parfois, comme le montre effectivement à l'intérieur de cette tombe, il y a parfois une inhumation. Inhumés ou incinérés. Bon. Et les objets qui accompagnent le défunt sont pour certains très intéressants. Par exemple, vous l'avez vu sur la page de présentation de ce cours, ce masque qui est très très impressionnant. Et alors bon, ben voilà, donc là on va découvrir de nouveaux dieux, le dieu chauve-souris. travailler ici dans du jade vert, hein, dont la couleur est vraiment superbe, très très impressionnante, et ça rappelle effectivement que les Apothèques, puis par la suite les Mixtèques de la vallée de Oaxaca, travaillaient ces pierres, pierres dures, précieuses, semi-précieuses, parfois c'est de la jadéite grise à fin relief que l'on peut trouver dans ces tombes, mais l'objet le plus célèbre, c'est celui-ci. Donc c'est le dieu chauve-souris, il s'appelle Murciélago, et si on ne l'a pas retrouvé chez les Aztèques ou les Toltèques, c'est que tout simplement ces derniers sont des Nahua. Les Toltèques et les Aztèques sont des Nahua. Or là, on a affaire à une population qui est différente. Ce ne sont pas des Nahua, ils ne parlaient pas le Nahualte, donc leur langue n'est pas de la famille linguistique auto-aztèque, comme vous le savez. C'est un peuple d'origine un peu mystérieuse et qui avait sa propre langue. D'où le nom qu'on va lui donner, Murciélago. Hein, donc vous n'allez pas le retrouver dans le panthéon des Aztèques, par exemple, hein, c'est propre aux Apothèques. Époque préclassique, ça nous situe donc ben voilà, autour de 150 avant notre ère, 100 de notre ère. L'objet a une hauteur de 28 cm si vous ajoutez les pans de loques qui sont ici. Donc l'objet est présenté aujourd'hui au musée anthropologique de Mexico sur un support et de façon à mettre en valeur les pans de loques qui sont en jade pareillement. Bon, Murciélago est la divinité qui accompagne le défunt dès lors que c'est le dieu zapothèque de la nuit et de la mort. De la nuit et de la mort. Donc il accompagne le défunt. Si il a une apparence de jaguar, bon, ben, je vous renvoie des cours précédents. Pas plus tard que la semaine dernière, on a dû voir un serpent bicéphale avec une tête qui ne ressemble pas à une tête de serpent finalement, mais qui se rapproche plutôt de la tête de jaguar. Voilà, pour toutes ces raisons, c'est pas normal, quoi. Il y a toujours ce jeu de métamorphose. On combine des formes, si vous voulez. Alors justement, parlons des formes. Et les formes notamment en terre cuite. Il y en a certaines qui sont vraiment très inventives, très très curieuses. Alors, ne vous attendez pas quand même à des choses réjouissantes, puisque la plupart du temps, ces choses ont été trouvées dans les tombes de Monte Alban, hein, exposées aujourd'hui, soit au musée archéologique d'Oaxaca, soit au musée anthropologique de Mexico. Bon, alors, dans une offrande funéraire de Monte Alban, les archéologues ont découvert ce support, au pied d'Estal, il est en argile, donc cuit hein, par ailleurs, hein, c'est la terre cuite si vous préférez, qui représente, comme vous le voyez, une partie du squelette humain, avec en particulier les os de la hanche et une partie de la colonne vertébrale. Là-dessus, à quoi servait ce support ou ce piédestal en argile, on ne le sait pas. Donc on peut imaginer qu'il y avait dessus bah, quelque chose, un crâne, un vase, autre chose. Par contre, ce dont on est sûr, est-ce que tout ça, ça vous étonne? Ça ne doit plus vous étonner maintenant, les crânes, tête de mort, les représentations de la mort en Mésoamérique, le cycle de la vie et de la mort qui est indissoluble, ce jeu de paires d'opposés complémentaires que j'ai dû introduire déjà, enfin, j'espère quand même que j'en ai un peu parlé, donc ça ne doit plus vous étonner, hein, c'est-à-dire effectivement que c'est constant, hein, donc il n'y a pas de vie si la mort n'est pas là, hein, donc à côté. Hein. C'est pas du tout l'esprit occidental. L'esprit occidental est fondé sur les catégories aristotéliciennes ou sur les essences platoniciennes, que sais-je encore. Bon, donc on met tout dans des boîtes, dans des tiroirs, ça c'est notre façon de voir. Pas eux. Donc la mort doit être toujours là, toujours présente, sinon la vie n'existe pas. L'un n'existe pas sans l'autre. Hein. Donc ne soyez pas surpris, et si enfin, la suite, effectivement, va. Alors donc on va voir la suite aussitôt. Donc urne funéraire en terre cuite, à l'image du dieu zapothèque, un jaguar. Il vaut mieux être prudent, effectivement, et dire un jaguar. Hein. Un, c'est le chiffre, en fait. Hein. Un jaguar. Hein. Alors ces apothèques, ça n'a pas été trouvé cependant à Monte Alban, mais c'est très caractéristique de la terre cuite zapothèque, surtout la date est tout à fait intéressante. L'objet mesure 42 cm, c'est donc une terre cuite, et encore une fois, on peut y voir un peu se dessiner l'oursier lago, le dieu chauve-souris, ce qui va le dire dans ce cas, ce sont les oreilles. Donc on veut bien croire que la tête est celle d'un jaguar, cependant les oreilles toutes rondes sont plutôt apparentées à celles de la souris, si vous voulez. On y retrouve les oreilles de Mickey, pour faire simple, hein, pour être plus direct. Hein. Alors voilà, donc c'est cette image-là qui a tendance à l'emporter, celle de Murciélago qui se confond avec un jaguar, donc le grand dieu zapothèque, un jaguar, que l'on va découvrir d'ailleurs ici. Ah, les oreilles, oui, sont vraiment tout à fait particulières. Alors c'est un très bel objet, très inventif, donc du point de vue encore une fois des formes, hein, ces potiers et céramistes mésoaméricains sont vraiment très doués. Ils ont une imagination qui est très, très remarquable. Alors il faut comprendre aussi cette richesse des formes de la terre cuite zapothèque par l'influence des gens de Teotihuacan. J'avais dû vous présenter des poteries à Teotihuacan qui étaient vraiment très très belles, notamment des braseros de type théâtre. Si vous vous rappelez, bon, c'était très compliqué, très complexe comme poterie. Et oui, c'est sans doute la présence de gens de Teotihuacan ici à Monte Alban qui va inspirer les céramistes zapothèques. Hein. Alors donc, diversité des formes, par exemple ici, un travail élaboré, montrant souvent des personnages comme celui que vous avez sous les yeux, personnages assis en tailleur, surmonté de hautes coiffures dans ce cas, hein, porteur de parures complexes, puisqu'on distingue par exemple les disques d'oreilles, sans doute un ornement nasal, et peut-être plus le besote, peut-être même le labré qui s'ajoute à tout cela. Bon, donc l'apparence est vraiment majestueuse, surtout qu'il faut y ajouter sans doute des colliers ou des étoffes en forme effectivement de manteau, de tunique et plus. Bon, donc et ces sculptures en terre cuite sont produites comme les encensoirs de Teotihuacan, par l'adjonction d'éléments décoratifs, c'est-à-dire qu'on va, par un jeu donc d'engobe qui sert de colle, si vous voulez, ajouter donc à la céramique les disques d'oreilles. Et ensuite, par cuisson, ça va donc se souder au corps même de la céramique. Mais ce sont des disques d'oreilles, ce sont les emblèmes de la chauve-souris, ça peut être les oreilles toutes rondes par exemple, ou les lunettes qui entourent les yeux du dieu de la pluie. Donc le dieu de la pluie est représenté par ce motif qu'on appelle lunettes à ce propos. Hein. Et d'ailleurs, ça rappelle beaucoup Tlaloc. Je ne sais pas si j'avais dit ça, à propos de Tlaloc. Un Tlaloc a des œillères. Hein, bon. Et on va retrouver effectivement dans le panthéon des dieux zapothèques, Cosiro qui est le dieu de la pluie, qui est l'alter ego de Tlaloc, et comme par hasard, on va lui donner effectivement des œillères. Si vous préférez œillères à lunettes, mais enfin, le terme lunettes est consacré désormais pour donc désigner ce dieu Cosiro. Alter ego de Tlaloc. Donc tous ces éléments-là sont des éléments rapportés. Donc le céramiste va les ajouter, ces éléments décoratifs, hein, et par l'engobe, donc les coller et les cuire, donc c'est fixé pour toujours si la poterie n'est pas cassée par la suite. Donc il y a des formules qui sont vraiment très riches, très inventives. Donc là, ici, on retrouve finalement à la fois Murciélago, c'est-à-dire le dieu de la nuit, et de la mort des apothèques en raison des oreilles. Donc oreille de Mickey, oreille de souris si vous voulez, bon, toute ronde, mais on va retrouver aussi les fameuses lunettes qui caractérisent Cosiro que l'on a vu à l'instant. On va y retrouver enfin des crocs. On sait que Tlaloc, lui aussi, de son côté, a des crocs, et les crocs peuvent s'apparenter aux jaguars. Donc on a bien ici une combinaison ou une métamorphose de trois divinités qui se confondent ici pour former une entité, mais ça c'est caractéristique, effectivement, de la vision des choses des Mésoaméricains. C'est-à-dire la réplique, le dédoublement. Parfois même le triplement. L'entité est capable de se dédoubler. Bon. Et là, vous avez quand même un objet en terre cuite qui est fabuleux, qui est fascinant, surtout qu'au départ, il était polychrome. Sur d'autres photos, on peut retrouver des traces de polychromie qui sont mises en évidence, comme ici, par exemple, c'est exactement le même objet. On s'est rapproché de la tête et remarquez au passage que la tête est soutenue par une collerette ondulante, d'une virtuosité technique incroyable. On a eu beaucoup de chance, elle n'a pas été cassée avec le temps, mais enfin on se dit que le céramiste est quand même très doué pour réaliser ce détail. Alors c'est par adjonction, c'est-à-dire qu'il a réalisé cette collerette à part, puis avec de l'engobe, il l'a fixée sur la pièce, il l'a cuit ensemble, et ça donne ce que vous avez sous les yeux. Là on voit bien les lunettes de Cossiro, et les disques d'oreilles aussi, et surtout la polychromie, la riche polychromie de ce dieu chauve-souris. Ou Cossiro, à vous de voir, chauve-souris, donc c'est Murciélago ou Cossiro. Voici encore autre chose, et ce qui est tout à fait fabuleux dans la poterie zapotèque, c'est le renouvellement constant des formes. Et c'est pour ça que tout à l'heure j'ai introduit mon cours par le biais du commerce, l'économie si vous voulez, en disant voilà, bon, entre autres choses, ce que j'ai dit c'est que la vallée de l'Oaxaca était riche en mica, ce qui induisait un commerce justement du mica, mais en plus de ça, donc il y a des relations entre les gens de Teotihuacan et les zapotèques de Monte Albán, ou même avec d'autres peuples voisins, et ça engendre, si vous voulez, de nouvelles formes. À chaque fois, donc, les artistes sont inspirés par les nouvelles personnes qu'ils croisent à Monte Albán, et ça donne ça. Et ça, c'est quand même tout à fait étonnant. C'est presque proche d'un style art déco, ce style art déco des années 1925-1930, qui présente parfois des architectures assez géométriques, et les décors art déco de ces édifices géométriques peuvent très bien finalement s'apparenter à ça. En tout cas, c'est une approche presque cubiste, cette fois-ci, de la figure. La figure est sans doute la même, c'est-à-dire Cossiro, parce qu'on voit les lunettes du personnage, il y a un ornement nasal tel qu'on ne voit pas la bouche du personnage, donc on ne sait pas s'il a des crocs, si on peut l'apparenter effectivement à Cossiro. On ne voit pas par contre les oreilles de chauve-souris, on ne voit pas non plus les crocs qui pourraient s'apparenter au jaguar, mais par contre alors il y a un effet ou un travail de stylisation, de schématisation et de géométrisation qui est tout à fait sensationnel, si bien qu'on ne voit peut-être pas le visage dans un premier temps. À ce propos, c'est une urne funéraire cylindrique. Venado fait référence à une tombe où il y avait une représentation d'un cerf, d'où le nom de la tombe, Venado, le cerf. Voilà donc pour cet objet qui est vraiment tout à fait extraordinaire sur le plan stylistique, géométrique, cubiste si vous voulez, art déco si vous préférez, enfin c'est vraiment sensationnel comme objet. Et pour insister sur le contraste entre toutes ces formes, en voici une autre tête qui va apparaître et qui est très très différente en fait des précédentes. Voilà donc cette fois-ci un visage humain. Voilà, un visage humain qui porte une collerette qui n'est pas ondulée comme la précédente, mais enfin qui est quand même, qui donne beaucoup beaucoup de caractère à ce personnage. Le visage est surmonté d'un masque à trompe, on voit effectivement cette trompe se profiler au-dessus, sans pour autant qu'on puisse justifier cette trompe qui est ici. Si bien qu'on ne sait pas trop effectivement quel est le personnage représenté, est-ce que c'est un dieu, est-ce que c'est le prêtre du dieu. Alors si c'est un prêtre de dieu, ce que l'on pense d'ailleurs, on va s'appuyer sur le détail qui ne vous a pas échappé, c'est-à-dire le détail des lunettes que l'on voit ici ou là. D'ailleurs, je ne l'ai pas dit, excusez-moi, c'est le même document photographié sous deux angles différents. Et donc, de face, on voit peut-être mieux le jeu des lunettes. Donc, c'est un masque au-dessus de ce visage qui pourrait suggérer Cossiro, le dieu de la pluie. Et donc, on aurait ici le prêtre de Cossiro. On peut peut-être aller plus loin. Est-ce que ça n'est pas tout simplement le portrait d'un prêtre qui à Monte Albán était voué à Cossiro. Et donc ainsi on passe d'une figure géométrique, cubiste, art déco, à quelque chose qui est naturaliste, où le potier, le céramiste fait un effort pour traduire les traits physionomiques de son personnage, qui est peut-être donc un portrait. Tout ça on ne peut pas le prouver, on ne le sait pas, ça n'est qu'une hypothèse. Mais en tout cas ce qu'on peut apprécier c'est le contraste entre la pièce précédente et celle que je vous montre maintenant, qui relève peut-être d'un art du portrait, un véritable art du portrait. En voici d'autres, hein, qui sont vraiment sensationnelles, spectaculaires. Toujours ces urnes funéraires qui ont été trouvées à Monte-Alban, ça veut dire dans les tombes de Monte-Alban. À gauche, donc un dieu, un personnage, mais enfin on dit dieu, après tout on ne sait pas, mais enfin il en tout cas paraît comme le serait un dieu ou le prêtre du dieu. Donc on appréciera le collier, les bracelets qu'il porte, les disques d'oreilles, il a même sur son visage des scarifications, on les voit un petit peu mieux. La coiffure est extrêmement complexe, elle porte ou présente un glyphe, et c'est justement comme cela, grâce à ces glyphes, qui se rajoutent à ces figures, que l'on peut déterminer à droite la déesse 13 serpents, parce qu'il y a effectivement un glyphe qui se rapporte au chiffre 13 et au serpent. Donc c'est la déesse 13 serpents de la tombe 109 de Monte-Alban. Pareillement, remarquez que la déesse est complétée par donc une coiffure qui est en fait un masque sur lequel on peut encore voir se dessiner les œillères ou les lunettes de Cossiro, les crocs aussi qui le caractérisent. Donc on peut supposer que la déesse 13 serpents est une déesse de la fertilité, de la fécondité. Elle est liée au monde chtonien, le serpent, mais elle est liée aussi à la pluie. Donc là, vous avez donc deux entités qui sont suggérées, effectivement. Et encore un personnage donc très, très complexe sur le plan, effectivement, de l'iconographie, mais qui n'est pas moins complexe sur le plan technique. Effectivement, on a voulu y reconnaître le vieux dieu du feu, souvenez-vous. Oui, je crois que j'en ai présenté. À propos de la sculpture aztèque, j'ai dû vous présenter des têtes de vieillards. Avec cette énigme, on ne savait pas si c'était Huehuetéolt, le vieux dieu du feu. Bon, ben là, effectivement, c'est la même interrogation. Est-ce qu'on a affaire au vieux dieu du feu, Zapotec, qui ne portera pas, bien sûr, le nom de Huehuetéolt? On ne sait pas. Mais les rides sur le visage peuvent le laisser suggérer, bien sûr. On appréciera la coiffure, qui est complexe, qui est encore un masque avec une tête. On voit encore les œillères ou les lunettes, bien sûr. La parure est extrêmement complexe. Des glyphes viennent séparer l'ensemble, etc. Et je conclus, donc, à propos de cette sculpture zapothèque et ces terres zapothèques, je conclus avec cette œuvre-là. Alors, cette œuvre-là, qui est tout à fait magistrale, magnifique, qui est donc zapothèque, trouvée dans une tombe de Mithras, qui permettra de faire l'articulation avec le cours de la semaine prochaine. Mais c'est la Mithra des apothèques, parce que Mithra a été fondée par les apothèques. Hein. Les deux villes de Monte-Alban et de Mithra étaient apothèques, puis elles seront occupées, c'est ce qu'on verra la semaine prochaine, par les Mixtèques. Alors je conclue sur cette observation, sur la base de ce que l'on a sous les yeux. La religion permet un meilleur contrôle de la société. Ça, on le sait, et c'est vrai pour toutes les civilisations, finalement. Mais c'est ce que suggèrent très bien ces figurines d'hommes avec des masques. Donc c'est ce que vous avez sous les yeux, une figurine d'homme avec masque, c'est la coiffe tout à fait impressionnante qui le porte au-dessus de sa tête, qui est le masque en question. Et on a dit de ces figurines réalisées par les potiers de Zapotec de Monte-Alban, ou d'ailleurs on a dit qu'il s'agissait des dirigeants, donc des rois apothèques ou des princes apothèques, déguisés en être surnaturel pour impressionner la population. Donc là, on aurait, comme le prêtre précédent de Cossiro, un portrait d'un roi qui, pour impressionner les gens du peuple, se serait présenté à eux de cette façon-là. Donc costumé, paré, coiffé, comme vous l'avez ici, de façon à contrôler la société, à contrôler les gens, créer un effet visuel saisissant auprès de ces gens-là. Voilà la proposition que l'on a faite pour certaines de ces figurines zapothèques en terre cuite, hein, celle-ci étant la plus impressionnante peut-être. Hein. Voilà, donc ça c'était les apothèques dans un premier temps, donc Monte-Alban et les apothèques. La semaine prochaine, nous continuerons et nous verrons donc les Mixtèques de Mithra. Voilà, donc on continuera donc à explorer les cultures d'Oaxaca, la vallée d'Oaxaca.